Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, ce dimanche 21 octobre, passage à niveau en votre cabanier pendant 2 heures jusqu'à 14 heures et je rappelle que l'émission est rediffusée dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 0 heures. Et voilà le menu. On va parler de la situation actuelle au Conseil régional Île-de-France dont la gestion de Madame Valérie Pécresse est contestée et critiquée par le groupe de la gauche communiste, écologiste et citoyenne de ce conseil avec nous. On va voir la présidente du groupe gauche comme IDF, Madame Céline Malaisé. Après, on parlera du livre « Ainsi soit-elle, Ode aux déesses Silvers » de Emma Martens, d'édition Kiwi. Kiwi, d'ailleurs, il s'agit de 45 photos et témoignages, justement pour mettre en lumière la force des femmes Silvers. Il y a des gens qui les appellent des seniors, etc., etc. Donc, c'est pour les sortir, les femmes de plus de 50 ans, la invisibilité. On parlera également du dernier numéro de la revue Perspective de l'Institut National de l'Histoire de l'Art, qui est consacré justement au Portugal, l'espace lusophone. Un peu plus tard, on parlera de l'expo Résistance visuelle généralisée avec des livres de photographie, des documents, des archives et également un certain nombre d'autres matériaux au sujet des mouvements de libération d'Angola, Mozambique, Guinée-Bissau et Caver. Une expo qu'on pourra voir à partir du 24 novembre et jusqu'au 15 janvier 2022 à l'Institut National de l'Histoire de l'Art, on revient à lui, de rue Vivienne à Paris 2. Mais déjà, on reste dans la région parisienne. Madame Céline Malaisé, bonjour.
Bonjour.
D'abord, merci d'être avec nous. Alors, je rappelle un petit peu, vous êtes la présidente du groupe, vous faites partie d'un certain nombre de commissions, notamment de l'éducation. Et c'est vrai que vous êtes toujours enseignante d'histoire et géographie?
Oui, tout à fait. Alors, je suis enseignante. Alors, je ne fais plus partie de la commission éducation, mais j'en ai fait partie pendant 5 ans. Et maintenant, je suis partie de la commission de finances.
Ah voilà. Oui, d'accord. Oui, et on dit que l'éducation a besoin de finances. Bon.
Exactement.
Alors, commençons déjà par la gestion. Justement, bon, il y a eu une réunion du Conseil régional le 17 et 18 novembre. En résumé, quelles conclusions ce qui concerne la gestion de la part de Madame Valérie Pécresse, dans la mesure où il y a un certain nombre de rapports qui sont un peu critiques?
Alors, il y a eu des rapports de la Chambre régionale des comptes,
oui,
donc, qui se charge de regarder la manière dont la région a été gérée à partir de 2016 jusqu'à 2020, notamment pour les lycées. Et ce rapport est un rapport au vitriol contre la gestion de la droite régionale. Ça confirme malheureusement ce que nous n'avions cessé de dire pendant 5 ans. Je vous donne quelques exemples. La Cour régionale des comptes dit qu'il y a eu des défauts de pilotage très graves, notamment en termes d'entretien dans les lycées. Elle déplore aussi l'opacité, le manque d'informations, que ce soit vis-à-vis des élus qui attendaient soit des travaux dans les lycées, qui attendaient soit l'extension d'un de leurs lycées, qui attendaient soit la construction d'un nouveau lycée, qui n'avaient aucune information. Nous, conseillers régionaux, nous n'en avions pas non plus par ailleurs. La Cour régionale des comptes dit aussi que entre les crédits qui sont votés pour les lycées, donc tout ce qui fait communication par la droite régionale, eh bien en réalité il y a un gros décalage entre ce qui est voté et ce qui est réellement consommé. Et le décalage, il est que quand il y a 100 euros qui sont votés, il n'y a que 25 euros, en fait, qui sont réellement consommés pour les lycées.
Mais le reste, Madame Alizé, le reste est par où, alors?
Bah, le reste, en fait, c'est les excédents budgétaires. Par exemple, l'année dernière, en 2020, alors que c'était l'année de crise du Covid, il y a eu quasiment un demi-milliard d'excédents budgétaires sur le budget de la région, qui est de 5 milliards, ce qui est incompréhensible et ce qui est intolérable, en fait. Voilà, on aurait pu utiliser 485 millions supplémentaires pour venir en aide aux franciliens pendant la crise du Covid, ou pour rénover des lycées, ou pour faire en sorte d'assurer une aide alimentaire de façon plus conséquente, rendre la cantine scolaire gratuite, par exemple, qui pourrait être une bonne chose pour les familles les plus démunies.
Alors, apparemment, la Chambre régionale des comptes soulève aussi un problème de principe, que ça a à voir avec l'analyse des offres et le coût des contrats des PPP, partenariat public-privé, délaissés par les eaux et Pierrefitte.
Tout à fait. la droite régionale a fait le choix pour construire deux lycées de faire un partenariat public-privé qui a été remporté par l'entreprise Vinci. Ce qui amène à une chose très simple, c'est que la région a payé cette entreprise et doit payer maintenant à Vinci un loyer jusqu'en 2041 pour ces deux lycées. Nous, nous étions opposés au principe même. On avait des informations financières qui nous semblaient douteuses. On en a demandé des complémentaires que nous avons on a mis du temps à nous les fournir. Et aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes dit qu'il y a de fameux doutes sur le choix d'avoir fait construire en partenariat public-privé, sur le coût qui a été annoncé au départ, qui a flambé en fait au final, et sur la transparence. Elle utilise des termes qui sont très très lourds en disant qu'il y a un potentiel conflit d'intérêts
sur la question
des partenariats public-privé avec l'entreprise Vinci. C'est très rare que la Chambre régionale des comptes utilise ce genre de termes, c'est vraiment quelque chose de rarissime, et à nos yeux c'est assez grave, et le parquet d'ailleurs devrait s'en saisir.
Mais à propos, est-ce que ce thème-là a été abordé pendant la réunion du Conseil régional de France les 17 et 18 novembre ?
Alors, on a eu très très peu de minutes pour pouvoir en parler. On avait un exécutif de la droite régionale sur la défensive qui niait en fait ce qui était écrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Mais c'est une affaire qui n'est pas terminée. Voilà, ce que je vous disais, c'est que il y a deux rappels à la loi en fait. Dans ce rapport, il y a 7 recommandations et sur les 2 rappels à la loi, il y en a qui tombent en fait dans un autre domaine qui est le domaine de la justice maintenant. Voilà, donc les choses ne sont pas terminées. Alors politiquement, bien évidemment, nous allons soulever ce que nous soulevons depuis longtemps. Par exemple, un autre appel à la loi qui est fait, c'est qu'il y a des brigades régionales de sécurité sur laquelle la droite régionale de Valérie Pécresse a énormément communiqué. Ce qui pose un problème, en fait, parce que ça n'est pas de la compétence de la région, ça vient en concurrence avec des équipes mobiles de sécurité qui existent dans tous les établissements scolaires et qui sont de la charge du rectorat. Et la Chambre régionale des comptes appelle finalement à cesser ces brigades régionales de sécurité. Donc, nous allons saisir les autorités compétentes pour voir ce qui est possible de faire maintenant.
Alors, et justement, apparemment, ce serait en infraction avec le Code de l'éducation. Qu'est-ce qui dit le Code de l'éducation ?
Le Code de l'éducation dit que tout ce qui relève de la sécurité des élèves et des communautés éducatives de manière plus générale relève de l'État. C'est une compétence régalienne la région ne respecte pas ça. Il existe, le rectorat a des équipes mobiles de sécurité. Et le rectorat, par exemple, n'a pas connaissance des actions des brigades régionales de sécurité, ce qui est un problème en fait.
Voilà. Mais en principe, c'est une compétence aussi des municipalités. Ça concerne uniquement l'enseignement primaire.
Ça concerne en fait pour les lycées, ça concerne uniquement l'État.
L'État, oui.
Après, les municipalités peuvent avoir des compétences en termes de police municipale, mais qui n'ont pas vocation à intervenir dans les établissements scolaires. Donc, ça relève vraiment de l'État. Après, on est au début de l'histoire, hein, donc.
Alors. Parlons un petit peu des transports. Pour ceux qui habitent à Paris, il n'y a aucun souci. Hein. On sort, on a le métro, on a les bus, on a tout à 5-10 minutes. Et quand on habite en banlieue, on est obligé de passer par Paris. Bon, c'est un autre problème. Les horaires, les jours fériés, les vacances, etc., etc., c'est vraiment galère pour ceux qui habitent en banlieue. Bon, voilà. Alors, vous avez lancé une pétition, d'ailleurs, au sujet que serré comme des sardines. Alors, j'ai reçu la liste de moins de bus sur 165 lignes. Bon, je sais que me concerne à moi, il y a tous ceux qui travaillent à Radio Alpha, c'est le 393, qui passe juste à côté. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe avec ces 65 lignes ? Il y a moins de bus ?
C'est ça. La droite régionale a fait voter au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, qui est en charge du transport, la réduction de l'offre des transports. Et donc, en expliquant qu'il y avait moins de fréquentation, et donc il fallait réduire l'offre pour faire quelques économies, mais des économies qui sont des économies vraiment minimes. Et donc, l'offre aujourd'hui de transport pour 165 lignes de bus, 13 lignes de métro, et sur les bus, les métros, les Parisiens et les habitants des autres départements sont logés à la même mauvaise enseigne, en fait. Parce que tous, en fait, ont une réduction de leur offre de transport. Il y a 6 lignes de RER aussi qui sont touchées, 6 lignes de Transilien, 4 lignes de tramway. Et en fait, tous ces moyens de transport ont une offre qui est calquée sur l'offre des vacances scolaires.
Oui, mais ça...
C'est qu'on se retrouve avec des temps d'attente qui sont infernaux, des conditions de transport qui sont insupportables avec... alors qu'on est en cinquième vague épidémique et on est vraiment serré comme des sardines. Et tout ça, en fait, pour faire quelques économies, notamment pour financer le bouclier tarifaire que la droite régionale avait promis pendant les élections, qui est que quand on prend un ticket, à partir de l'année prochaine, on ne paiera plus que 4 euros, quel que soit l'endroit de départ et l'endroit d'arrivée. Voilà, un ticket à l'unité. Sauf que ça dégrade nos conditions de transport, on arrive en retard au travail, des fois vous avez des témoignages qui se multiplient sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui disent avant j'attendais 15 minutes, maintenant j'attends plus de 30 minutes. Voilà. Et puis ensuite on voit des vidéos aussi qui tournent où les gens sont serrés les uns contre les autres.
Et, oui. Et en même temps on s'empêche d'aller boire un café en terrasse. Mais par rapport au transport, la ligne B de RER, Roissy et compagnie, est-ce que ce projet de créer une ligne grande vitesse entre guillemets entre Paris et Roissy-Charles de Gaulle, ça se maintient, ça se maintient pas, qu'est-ce qui se passe?
Ce projet du Charles de Gaulle
Express, oui.
Il y a un train en fait réservé, qui est conçu pour les touristes d'affaires, voilà, pour dire les choses, que vu le coût du ticket, il ne sera pas utilisé, surtout en plus qu'il ne s'arrête pas dans les gares. Ça se poursuit, les travaux se poursuivent, qui explique que la dégradation des conditions de transport sur le RER B pour les usagers est insupportable. Et ce qui est prévu, c'est que l'année 2022-2023, ce seront des années infernales, avec encore plus d'incidents qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, début novembre, on était à plus de 400 incidents graves sur l'année 2021. C'est-à-dire, on est à plus d'un incident grave par jour, en fait. Voilà. Et donc, vous avez des gens qui expliquent que c'est un miracle quand le RER B fonctionne bien pendant quelques heures.
Oui, surtout. Bon. Et d'ailleurs, la SNCF et la RATP aussi, surtout ce qui concerne le Transilien, j'en passe les maires, le RER, c'est qu'il n'y a jamais de retard. On supprime les trains, comme ça, il n'y a plus de retard. Et à propos de retard, bon, 2024, les Jeux Olympiques. Alors, une idée de Madame le maire de Paris, Madame Hidalgo, au-delà, donc les voitures avec la vignette 2 et 3 ne pourront plus circuler dans Paris, bon ça c'est une autre affaire, il vaut mieux être riche que pauvre, mais enfin, alors, voilà, alors de réserver une voie sur le périphérique, bon pour les bus, les taxis, j'en passe les maires, et surtout pour que les athlètes puissent arriver dans les stades correctement. Alors, entre-temps, la mairie a lancé, l'a annoncé, et la région a entamé une consultation sur le périphérique parisien, une consultation d'ailleurs qui dure très peu de temps, hein, parce que c'est jusqu'au 30, oui, c'est du 10 au 30 novembre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette consultation?
Bah, c'est une consultation parce que Valérie Pécresse est en campagne pour l'élection présidentielle et elle a besoin en fait de mettre en scène sa concurrence avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. C'est une consultation qui est biaisée parce que l'avenir du périphérique, ça peut pas se limiter à dire on est pour ou contre une voie réservée au covoiturage et au bus. Ouais. En réalité, Valérie Pécresse, elle est en responsabilité des transports en commun. Ce qu'elle devrait faire déjà, c'est faire en sorte que les transports en commun fonctionnent, et notamment aussi pour les Jeux Olympiques, mais surtout au quotidien, pour les usagers et les franciliens. Ce qu'elle ne fait pas, elle les délaisse, et elle met en scène, voilà, elle met en scène le périphérique, c'est une vraie question, hein. C'est une question pour bien évidemment les habitants des banlieues. C'est une question aussi, comment on fait pour essayer de faire en sorte de faire réduire l'usage de la voiture. Nous, on a une proposition, hein. On explique qu'il faut lancer un nouvel investissement de transport en commun avec un métro qui serait un métro très proche du périphérique. Permettrait en fait réellement aux habitants des banlieues de pouvoir se passer de leur voiture pour se déplacer.
Oui, parce qu'il faudrait utiliser la A86, c'est toujours bouché du matin au soir. Bon, et la A104, normalement, est-ce que les camions ne devraient être pas obligés de passer par la A104 au lieu de prendre la A86 ou prendre le périphérique?
Ouais. Après, sur le périphérique, tout ça n'est que polémique hein, de la part de Pécresse. Elles sont des intérêts, en réalité, parce qu'il y a des études qui sont menées. Elles ne sont pas jusqu'au bout. Elles devraient déjà s'occuper des transports en commun. Voilà. C'est le conseil qu'on lui donne, qu'on ne cesse de lui donner. Déjà remettre l'offre de transport à 100% et puis s'occuper des transports en commun qui sont utilisés par les usagers. Les RER, aujourd'hui, un usager du RER B, on en a parlé, c'est terrible. Un usager du RER D, c'est extrêmement difficile. Un usager du RER C aussi, qui voit ses temps d'attente flamber. Donc, voilà, chacun devrait s'occuper de ses siens. Voilà, et puis, vous avez dit, ça finit le 30 novembre. Qu'est-ce qui se passe le 1er, 2, 3 et 4 décembre? C'est l'élection au congrès interne des LR pour désigner le candidat ou la candidate qu'ils auront aux élections présidentielles. Vous voyez, le hasard de calendrier n'est pas un hasard. Quoi.
Bon, enfin, c'est une lecture, hein, c'est votre lecture, je la respecte.
Lecture, ouais.
Voilà, oui. Mais il faut dire aussi que le périphérique parisien n'est pas la compétence de la région.
Tout à fait.
Voilà, région, parlons de la région, parce que bon... dans le temps où il y avait des usines à Paris, en grande banlieue, on parlait même d'une banlieue rouge, à un moment donné, tout autour, on avait même Citroën au Quai de Javel, à Paris, etc. Donc, il y a certains emplois qui sont disparus, et entre-temps, il y a des entreprises qui continuent à fermer, et dernièrement, c'est, je pense, l'entreprise Bergams, 283 personnes qui perdent leur emploi. Vous avez réagi par rapport à ça?
Oui, on a réagi. Alors, ça fait longtemps qu'on réagit parce que le maire de Grigny et l'équipe municipale est très, très impliquée pour soutenir les Bergams depuis qu'ils sont en grève, depuis le mois de septembre. Et puis, on a interpellé mercredi matin la présidente de région pour lui demander ce qu'elle comptait faire. Et puis, le jour même, on apprenait que il y avait la liquidation judiciaire des Bergams. On a réussi à faire en sorte que la région enfin se préoccupe de la question. Alors, c'est un peu tard, mais le maire de Grigny demande qu'il y ait une table ronde avec, bien évidemment, la ville de Grigny, l'État et la région pour voir comment tous ces acteurs peuvent aider à la reprise de l'entreprise et faire en sorte, finalement, que ces 283 salariés ne se retrouvent pas au chômage. Donc, la région y participera, mais on a dû énormément insister. Et en fait, on se rend compte que... Il n'y a pas de cellule, par exemple, de veille de la région, parce que Bergam, c'est une entreprise, mais on a rencontré aussi cette semaine une entreprise qui fait des rousiers, c'est-à-dire comme des clés de voûte pour les tunnels des métros, qui s'appelle Bonassabla, qui n'emploie que des sous-traitants et qui a comme objectif, en fait, là, de liquider tout ça. Et donc, on voit que la crise sociale, on en est malheureusement qu'à ses débuts et que la région ne joue pas son rôle en termes de maintien de l'activité économique et surtout des emplois dans la région. Elle a par exemple un dispositif qui existe mais qui n'est jamais utilisé, qui est un dispositif qui s'appelle Backup, qui sont des aides régionales à la reprise des entreprises. Et ça, ça n'est jamais utilisé. Chaque année, c'est 0 euro sur le mois. Voilà. Donc oui. Nous, on veut que la région agisse. Sur Bergam, on a relayé. La droite nous a dit vous n'avez pas relayé assez fort, on ne vous a pas entendu. C'est pas normal, voilà. C'est pas normal que l'exécutif régional ne soit pas au courant de ce qui est en train de se passer dans sa région.
Alors, on parlait de Grigny, il faut dire que M. le maire Philippe Rio a été considéré le meilleur maire du monde. Bon, et ça se passe en banlieue et à Grigny. Hein, avec,
ça se passe dans la ville de France. Ouais.
Voilà, quand on parle des trois bornes, etc., etc. Bon, voyons, faut regarder aussi les bonnes choses qui se passent en banlieue. Alors, on a critiqué, bon, la région, Madame Pécresse, mais un certain nombre de choses qui ont été faites. Par exemple, je parle de ce qui concerne l'Anceste. Région Île-de-France et le centre Hubertine Auclair ont publié un rapport pour un plan d'action régional d'Île-de-France et une campagne de prévention. C'est positif, ça?
Alors, c'est très positif. Moi, je siège au conseil d'administration du centre Bertino Claire qui est chargé de l'égalité femmes-hommes. Quand il y a eu le MeToo inceste qui a eu lieu, je me suis dit la région ne peut pas rester les bras ballants. Et j'avais proposé un amendement pour que le centre Bertino Claire fasse des propositions, notamment de prévention et d'éducation vis-à-vis des lycéens, puisque c'est la compétence de la région. Cet amendement avait été entendu par l'exécutif régional, comme quoi des fois c'est bien insisté. Et aujourd'hui, ça donne lieu, donc il y avait une délibération qui avait été votée à l'unanimité par la suite, et aujourd'hui, donc ça donne lieu à ce rapport avec des préconisations, qui sont des préconisations, bien évidemment, qui vont dans le bon sens, qu'il va falloir mettre en œuvre dans les lycées et qu'il faut aussi faire connaître aux départements et aux communes pour que finalement il y ait la même chose qui se passe à la fois dans les écoles primaires et dans les collèges, parce que on sait que les histoires d'inceste commencent surtout dès l'école primaire. Voilà, l'âge moyen, par exemple, ce que dit le rapport du Centre Bertine Auclair, c'est que l'âge moyen, c'est 9 ans. Donc, si on n'intervient pas et on n'alerte pas et on n'a pas de travail de prévention à l'école primaire, on arrive un peu tard au lycée.
Voilà, avec tout ce qui soit. Bon, justement, hier, il y a une manifestation, justement, contre les violences faites aux femmes. La journée internationale, bon, on parle journée internationale, peut-être journée tous les jours, mais enfin, ça sera le 25 de ce mois-ci. Alors, entre-temps, il y a des femmes, mais bon, il y a des groupes de femmes qui ont proposé que les candidats à la présidentielle ne puissent pas être candidats s'ils ont été condamnés pour des agressions sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Voilà, je soutiens à 100%. Voilà, dans tous les milieux, les femmes sont soumises à un système de domination qui peut aller jusqu'aux violences. C'est vrai aussi dans le milieu politique. Dans le milieu politique, quand on est une femme, la vie n'est pas simple tous les jours, à la fois des remarques sexistes ou bien un système de domination qui se met en place jusqu'à vraiment des violences sexistes et sexuelles, voire des viols. Et donc, un homme candidat à des élections qui est soupçonné ou qui est attaqué pour ça ne doit pas être candidat. Moi, je soutiens. Voilà, vraiment, je soutiens. De façon assez forte. Après, moi, je suis une femme en politique, donc...
Oui, vous êtes concernée aussi, je pense que...
Je suis concernée, voilà.
Complètement.
Concernée et je sais que le monde politique est un monde sexiste. Un monde sexiste, et c'est, pour certains, ce sont des codes qui sont perpétrés de génération en génération. Donc moi, tout ce qui va sur les questions d'égalité femmes-hommes, je suis... voilà, moi, je suis féministe, donc...
Céline Malaisé, merci. Je rappelle, vous êtes la présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne du Conseil régional de Île-de-France. Merci et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci, au revoir. E agora vamos fazer uma pausa musical. Ah, meus amigos, vocês não sabem o que perderam no dia 18, às 20 horas, no Goethe-Institut. Estava lá a quem? O Filipe Raposo. Nem mais nem menos, demos um cheirinho passamos uma faixazinha de um dos seus discos. Vale a pena relembrar, perderam qualquer coisa do passado dia 18. apprécié Pierre Aufourg où Philippe repose. Eh oui, vous l'avez manqué, il était à Paris le 18. On parle complètement dans un autre monde. Des fois, on se demande si on marche pas sur la tête. C'est au sujet des... On met les gens dans le tiroir. Les femmes sont victimes davantage de ces stigmates. Faut pas dire autre chose a priori, etc., etc. Pour éclaircir les choses, bien que ce soit un noir et blanc, je vais parler du livre Ainsi soit-elle, Odeas Silver, de Emma Martins. Emma, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, justement, avec les gens si incessantes à profiter de leur jeunesse, on emmène les femmes à penser qu'à partir d'un certain âge, leur vie devient subitement morose, voire désuète. Ainsi soit-elle, est là pour prouver le contraire. Donc 45 photos, noir et blanc, et 45 témoignages. Il fallait le faire, ce livre.
Ben oui. C'était une envie dès le départ de réunir photos, témoignages et récits à travers 45 femmes.
Alors, elles ont entre 42 et 84 ans, mannequins, comédiennes, écrivaines, peintresses, aux danseuses, albinos, victimes d'inceste, atteintes de cancer, ex-membres d'une secte, première mère en genre de France. Alors, ce sont des cheminements, ce sont des combats. Il y a quelque chose qui m'a touché dans le mauvais sens du terme. Ce que bon, invisibilité.
Oui.
Et un mot seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire seigneur? Bien que, il y a un des témoignages qui dit je m'assume comme seigneur. C'est pas réducteur, ça?
C'est plus. Alors ça va dépendre après des femmes. Hein. Il y en a qui vont dire que ça leur pose pas de problème, et puis d'autres qui trouvent ça plus, si on peut dire, plus fade ou pas assez glamour, ou alors elles se retrouvent pas du tout dans ce mot-là. Moi personnellement, quand je contactais les femmes, je n'aimais pas dire senior, plus de 40 ans ou autre, et je voulais chercher un mot qui soit, je sais pas, frais ou sympa en tout cas à entendre. Et j'ai notamment une des femmes que j'ai rencontrée lors de la série qui m'avait dit moi je dis Silver, sexygénaire, Carolinida, et donc du coup à partir de ce moment-là, je me suis dit Silver, c'est bien. C'est plus frais.
Alors, mais les femmes elles-mêmes, bon, parce que on dit bon, une femme à partir de 40 ans, bon, avant, d'ailleurs, il y a un témoignage qui parle justement l'âge de la femme et la littérature, et en fonction, plus on avance dans le temps et l'âge elle augmente aussi. Ça a toujours été quelque chose que la société a voulu marquer au fer rouge, l'âge des femmes, non?
Oui, et puis c'est il y en a qui vont même dire c'est à partir de 50 ans. Je pense que ça dépend de chacune ou de la société. Moi, j'ai voulu commencer à partir de 40 parce que je trouve qu'il y a quand même, on va dire, comme si à partir de 40 ans, il y avait les dernières décennies par rapport à la ménopause ou plein de choses. Et puis après, on passe un petit peu de l'autre côté. Et puis ça, c'est quelque chose que je voyais pas forcément avant, parce que moi je le vois pas comme ça, et quand on est jeune, on y prête pas forcément attention, mais au fur et à mesure, quand on rencontre des femmes, donc du coup moi à travers cette série et tout, je me suis dit oui, en fait, en effet, il y a un problème, chose que j'identifiais pas, parce que moi ça me paraissait, enfin je sais pas, moi j'ai toujours eu une admiration, mais après j'ai un peu les enjeux politiques ou ce genre de choses, je m'y suis plus intéressée, et en effet il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a un détachement, comme si on avait, la femme ne pouvait pas, n'avait pas le droit de vieillir quelque part.
Et ça concerne toutes les femmes, quelle que soit leur condition sociale.
Je pense, oui, en partie, parce que finalement, quand je suis partie à la rencontre de ces femmes, où en fait, peu importe l'univers, le secteur où elles évoluent, en fait, à un moment donné, il y a un barrage, donc il y en a qui le voient, d'autres moins, mais ou alors pareil, qui n'y prêtent pas attention, qui foncent quand même, mais on peut quand même voir, surtout à travers les médias et la société, que ne serait-ce que dans la publicité ou plein de choses comme ça, où on voit moins de femmes. Enfin, maintenant, on en voit de plus en plus, vu que c'est devenu un effet de mode, mais de base, on en voit de moins.
Oui, alors c'est pour vendre des couches continence ou des trucs comme ça. Bon, excusez-moi de penser à
moins
ça.
Moins glamour, du coup.
Voilà, non, mais tout à fait. Alors, c'est aussi, je connais, j'ai des amis qui sont actrices, Bon, j'ai eu l'occasion de parler avec deux ou trois récemment. Elles m'ont dit, bon, plus question d'afficher l'âge, parce qu'à partir de 40 ans, attention, et d'ailleurs, même dans, il y a un témoignage dans votre livre, Ainsi soit-elle, un témoignage de Marine Thomé. Justement, bon, alors, une actrice de plus de 50 ans, bon, il faut vraiment être une grande vedette, autrement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail pour elle.
Non, c'est ça, c'est pour ça elle avait créé sa commission de la femme, la comédienne depuis 50 ans, et donc du coup elle disait justement, c'est pareil, je l'avais rencontrée un peu au même moment de Caroline Da, ou quand je les ai photographiées, et c'est peut-être là aussi où la série a pris une autre tournure, parce que c'est surtout elles qui m'ont dit, bah oui, en fait il y a un problème, moi il y a moins de possibilités en termes de rôle en tant qu'actrice, on me voit moins, et elle me disait même lors du shooting, moi j'aimerais bien faire des rôles de guerrière, de chamane, enfin des choses plus fortes que le côté grand-mère ou des choses qu'on voit habituellement au cinéma, et elle fait des parties de ses fans qui sont très engagées dans le sujet.
Alors, grand-mère, vous avez parlé de grand-mère. Je pense que votre grand-mère, Adelaide, oui. Non, en portugais, c'est Adelaide.
Oui.
Adelaide, bon. Justement, je pense que ça a été un moteur à partir de... Parce que, bon, vous avez des souvenirs avec elle quand vous étiez petite, non?
Ah bah oui, bah j'en ai plein. Moi, c'est une des femmes qui est très inspirante pour moi et qui a été très moteur. Et donc, du coup, je l'ai aussi appris au fur et à mesure de ma série. Parce que de base, quand je l'ai démarrée, c'était vraiment l'envie de photographier des femmes de plus de 40 ans et dans un univers gris, noir et blanc. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai appris avec cette série sur moi, sur les conditions, sur les femmes, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait... Si je dois le définir comme ça, aujourd'hui, c'est parti d'elle, de l'amour que j'ai pour elle, de tout ce qu'elle me raconte à chaque fois, de ses récits, les photos qu'elle me montre d'elle, enfin, plein de choses comme ça. Et ça, ça a nourri d'une certaine manière mon amour pour ces femmes et le livre.
Et d'ailleurs, c'est la 20e photo. Page, oui. Je regarde exactement, je pense que c'est page 152, parce que la dernière photo, c'est de vous.
Oui.
Alors, justement, venons à ces photos. Le choix du noir et blanc, c'est pas innocent. Bon, c'est vrai que je préfère le noir et blanc, ben, ça c'est mon goût personnel, ça concerne que moi. Mais les lumières, donc il y a quelque chose, bon, il y a très peu de lumière dans vos photos.
Il y a, j'ai qu'une source de lumière à chaque fois. Et puis l'idée, c'était, après ça a évolué au fur et à mesure, mais l'idée, oui, c'était d'avoir quelque chose d'assez mat, que tout s'harmonise. Alors après, c'est difficile à expliquer, surtout qu'au départ, quand j'avais commencé avec les premières femmes, c'était très, si on parle artistiquement, au niveau du noir et blanc, c'était très clair, très gris, et puis finalement, c'est parti un peu plus contrasté, avec plus de touches de noir, etc. Mais oui, je voulais quelque chose d'harmonieux et d'uniforme dans les photos et même à l'image. Et c'est comme ça que ça a pris forme. C'est dans l'instinct, je dirais aussi.
Et en même temps, bon, c'est des couleurs grisonnantes. Alors, je change pas grisonnant. On revient aux cheveux. N'est-ce pas ? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de sourire.
Il y en a très peu.
Très peu, oui.
Il doit y avoir trois femmes qui sourient. Et c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais moi, je dis à chaque fois que sourire, c'est facile. C'est ce qu'on peut donner en plus, de manière générale, très facilement dans les photos ou même dans la vie. Hein, on peut sourire facilement. Mais moi, ce que je cherchais, c'était avant tout l'émotion, d'aller chercher quelque chose de plus profond chez la personne. Et souvent, ce que je disais dans le shooting, c'est de jouer avec les émotions entre ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles sont aujourd'hui, ce qu'elles seront plus tard. Donc je voulais aller chercher autre chose. Et puis... montrer une autre image aussi de la femme. Donc après, on adhère ou on n'adhère pas, mais c'est ma manière de faire.
Alors, vous êtes une jeune fille, bon, je peux te dire votre âge, 23
oui.
ans,
oui.
Vous avez 23 ans. Et finalement, je pense que ces photos, Bon, il y a votre grand-mère, il y a votre mère aussi, d'ailleurs, qui a fêté ses 50 ans, je m'excuse,
oui.
En 2021, votre maman. Bon, est-ce que finalement, ça vous a pas obligé à réfléchir sur vous-même? Vous avez 23 ans, j'ai dit, bon, j'ai, entre guillemets, j'adore cette expression, la vie devant moi, c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire, comme si à partir d'un certain âge, on n'avait pas de vie devant nous. Est-ce que ça vous a posé des questions? Est-ce que ça vous a plutôt obligé à réfléchir?
Sur votre vie, oui.
Mmh.
Ah, je réfléchir peut-être, oui, de manière. Je dirais que moi, j'avance. Quand j'ai envie de faire des choses, je me dis, il n'y a pas d'âge vraiment, si on peut, en tout cas, il n'y a pas d'âge pour faire des choses. Et j'ai trop vu de personnes autour de moi où, à un moment donné, ils avaient envie de faire et puis ils se sentaient vite frustrés. Et moi, je me suis dit, moi, je veux pas. Ou en tout cas, le moins possible. Je veux faire ce que j'ai envie de faire, que j'ai 23 ans et d'être comme ces femmes aussi plus tard, d'avoir cette envie et cette joie de vivre, parce qu'en fait, on n'a qu'une seule vie. Hein. C'est bête, mais c'est la vérité. Et donc, d'une certaine manière, moi aussi, même parfois, je me suis dit à 20 ans, oh là là, j'ai déjà peur... peur de vieillir quelque part, comme s'il fallait que je vive mes 20 ans et de faire plein de choses, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer après? Et du coup, ça m'a permis peut-être de réfléchir autrement et de me dire, je fais ça aujourd'hui et puis plus tard, j'aurai envie encore de faire plein de choses et j'ai pas envie de m'arrêter. C'est ça.
Voilà, aujourd'hui, vous faites plein de choses. Hein. Vous avez une licence d'art de spectacle, un tuto photo, merci le copain. Vous êtes spécialisé, ça y mis entre guillemets, photographie de spectacles, etc., reportage des festivals de musique et théâtre. Oui. Bon, maintenant, ça reprend. Sans oublier les portraits, on a 45 dans ce livre.
Et il n'y a plus 45 photos.
Oui, il y en a plus.
Il y en a beaucoup plus. Il y a 45 femmes, mais il y a plus de... Oh, je ne sais plus, hein, mais il y en a plus.
Bon, ben, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai eu. Hein, 45 oui. témoignages, 45 photos. Bon, non, il y en a plus, parce qu'il y a des photos à vous aussi, et pas seulement. Et aussi de celle qui a fait la préface, entre
oui.
autres.
Hein.
Sans oublier, vous êtes modèle aussi.
Je suis modèle. Quand j'ai démarré la photographie de par le biais de mon copain et de l'entourage, j'ai démarré en tant que modèle et aussi et photographe, donc au même moment. Et puis après, j'ai décidé de. J'y vais un peu comme ça, sans trop réfléchir. Je me suis dit, en sortant de ma licence d'art du spectacle, la photographie m'intéressait, tout ce qui était aussi assistant de production, etc. Et puis j'ai trouvé mon premier métier, donc c'est la photographie pour le coup. Et j'ai évolué donc en tant que photographe, modèle aussi à côté. Mais être modèle reste quand même un plaisir, une passion aussi. Et c'est très intéressant d'avoir les deux côtés en tant que photographe.
Oui, parce qu'il y a le regard des deux. Alors, oui. Emma, on est pratiquement à la fin. Vos parents sont portés?
Oui.
Mais Emma, on parle portugais. Au moins pour.
Comment
Ah voilà, bon. Non, c'est pas un piège, loin de là. Donc, rapidement...
Je parle pas beaucoup, je comprends un petit peu, mais voilà. Je parle pas beaucoup.
Alors, mais Emma et le Portugal, alors. Bon, c'est comme tous les jeunes d'origine portugaise, et les vacances et tout ça.
Mais c'est les vacances depuis que je suis petite. Je suis pas allée pendant deux étés, ça m'a beaucoup manqué. Je suis partie un mois cet été. On a fait un road trip avec mon copain et puis c'était super. Et puis maintenant, il me manque le côté de l'apprentissage de la langue, chose que je n'ai pas eu étant petite et que maintenant il faut que je m'y mette sérieusement.
Écoutez, il faut trouver un financement pour aller faire des photos au Portugal. Voilà.
Allez, avec plaisir.
On cherche des sponsors, on cherche des mécènes. Bon, voilà. Emma Martins, merci. Donc, je rappelle votre travail, ainsi soit-elle, Odo, DS Silver. C'est des témoignages, également des photos. Et les femmes de plus de 40 ans, elles ont toute la valeur. Et ça, c'est très important. Parce que, tous les êtres humains ont de la valeur. Il ne faut pas mépriser les gens à cause de leur âge ou la couleur des cheveux. Emma, merci et à bientôt peut-être.
À bientôt.
minutos ainda antes do jornal das 13 e relembrar que a emissão era difundida à noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas e hoje vai ser às 16. Eu lembro o encontro mensal da Associação Gaivota, Fado e não só, canção francesa, poesia, literatura no Château Laurence, 11 Avenue Georges Clemenceau, 200 metros do metro ROR Brie-sur-Marne, Associação Gaivota. E para que se gostam de poesia, pois bem, há um livro que vale a pena ler, La Poesie du Portugal, antologia bilingue das origens até ao século XX, foi coordenado por um poeta também, Max de Carvalho, e que o livro vai ser apresentado na próxima quinta-feira, dia 25 de novembro, às 20 horas, na livraria Le Comptoir des Mots, 239 Rue des Pyrénées, Paris 20. E já agora, uma coisa completamente diferente, vai haver mais uma vez o Salão Partir à l'étranger. Este ano, Portugal é o convidado de honra, nem mais nem menos, o Salão que terá lugar, como já é hábito, na Porta de Versailles, entre o dia 26 e 28 de novembro, e vão estar presentes um certo número de responsáveis do Estado português, a começar por Berta Nunes, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, João Sobrinho Teixeira, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e também o embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, sem esquecer Carlos Oliveira, conselheiro de Portugal em Paris, e Adelaide Cristóvão, coordenador do Ensino Português aqui em França. Isto, eu lembro, que é feito igualmente no que diz respeito ao Salão Partir Étudier Étranger pela Capa Magela. E daqui até às 13 vou deixar com quem? Bonga. Bonga, uma canção que data de 1972, o título Monaki Gitixissa, não garanto a pronúncia, peço imensa desculpa. Bonga, Bonga precisamente, que foi atleta no Benfica, obteve o recorde nacional dos 400 metros e paralelamente cantava e também lutava. Tinha uma luta anticolonialista e teve fugido a PIDE. Um texto e uma canção que data de 1972, Bonga.
Mona mwenye, Kalunga ngumba Zambi wangi panamona Gamufalele Mwanyeze wando kalabenyaba Eme ngondo yamye mwenye Namona mwenye Beyeweza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Beyeweza Mona mona mwenye Alunga ngumba aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kalabenyaba Eme ngondo yamye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Alunga ngumba Zambi wangi panamona Gamu valele Mwenye wando kalabenyaba Eme ngondo yanye Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi panamona Kamufalele Mwanyeze wando kalabenyaba Eme ngondo yange Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 21 octobre, passage à niveau en votre compagnie jusqu'à 14h. On entame cette deuxième heure et on commence avec la revue Perspective numéro 2021-1 dédiée au Portugal, espace lusophone concrètement consacré au transfert culturel entre le Portugal, les espaces lusophones Angola, Brésil, Macao, Mozambique, notamment. Et avec nous, pour nous parler de cette revue de l'Institut national de l'histoire de l'art, rien de mieux qu'avoir la co-rédactrice en chef, justement avec nous via téléphone, Madame Marine Kizial. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes docteur d'histoire en art, conservatrice du patrimoine et conseillère scientifique à l'Institut national de l'histoire de l'art, et donc également co-rédactrice en chef avec Mathieu Léglise dans la revue. Alors, vous avez assumé ces fonctions il y a un an environ, je crois bien.
Exactement. Il y a un an, la revue Perspective a changé de rédaction en chef et Mathieu Léglise et moi-même avons proposé, c'était d'ailleurs une nouveauté pour la revue, qu'elle soit dirigée par non plus un ou une rédactrice en chef, mais deux co-rédacteurs en chef, ce qui nous permet de partager l'ambitieux travail que requiert cette revue.
Et paritaire, bon, il faut le dire. Bon.
Absolument.
Alors, depuis la création de la revue Perspective, 10 numéros ont été partiellement ou entièrement dédiés à un pays. Donc là, il y a un changement un petit peu, parce que bon, je cite le directeur de la publication, Monsieur Éric Deschassé, il vaut la peine de trouver des nouvelles manières de mettre en valeur la diversité mondialisée de l'histoire de l'art.
Oui, c'est vrai que la revue Perspective, qui a été fondée en 2006 par notre collègue Olivier Boncet, est une revue qui a pour ambition d'exposer la recherche en histoire de l'art en mouvement, d'où son sous-titre d'ailleurs, Perspective traite de l'actualité en histoire de l'art. Et à ce titre, il est important qu'elle se renouvelle en fonction du matériau qu'elle observe, l'histoire de l'art, et pour accompagner aussi le mouvement de ses contributeurs qui font une histoire de l'art précisément en mouvement. Et effectivement, si la revue au départ était périodique au sens où elle sortait 4 numéros par an, elle s'intéressait périodiquement et alternativement à l'Antiquité, au Moyen-Âge, au temps moderne et à l'art plus contemporain. Et là, il y a une dizaine d'années, décidé de consacrer un numéro sur deux à un pays invité, en relation, il faut le dire, avec un festival créé par l'INHA où nous travaillons, l'Institut National d'Histoire de l'Art à Paris, qui fête actuellement ses 10 ans. Et ainsi, un numéro sur deux s'est consacré à des histoires de l'art, plus spécifiquement axées sur ces pays invités qui ont pu être la Suisse, le Portugal toute l'année qui arrive, mais aussi le Royaume-Uni, l'Italie, vous voyez toutes sortes de pays liés à des traditions en histoire de l'art qu'il s'agissait de regarder pour elles-mêmes. Mais le prisme national, pour ne pas dire nationaliste, et l'idée de ces histoires de l'art ancrées dans une aire géographique particulière peut, à l'heure d'une histoire de l'art mondialisée, sembler ne plus être peut-être le plus probant. Et c'est ainsi que nous avons proposé, c'est un futur qui arrivera bien vite, dès 2023, que nous gardions absolument ce lien avec le Festival d'Histoire de l'Art qui est central, et avec les pays invités, mais par la voix d'un ou d'une rédacteur, rédactrice en chef que nous invitons, qui vient du pays que nous inviterons, l'Inde, prochainement d'ailleurs, et qu'Avita Singh pour un numéro à venir sur l'obscurité. Mais nous allons du coup rassembler une histoire de l'art et ses contributeurs de par le monde, ancrés dans une ère géographique à venir, comme par exemple l'Inde, autour d'une thématique. Et c'est ainsi que ce numéro sur le Portugal, pour revenir à ce pays si central pour nous ces derniers mois, est à la fois le dernier numéro pays et le premier à s'ouvrir véritablement à des espaces, à un espace très large, puisque vous l'avez dit, il s'agit là d'un numéro sur le Portugal et les espaces lusophones.
Tout à fait. Oui, d'ailleurs, bon, ça concerne le Festival de l'Histoire de l'Art. Ça sera au mois de juin 2022 et c'est le Portugal qui est accueilli à Fontainebleau. Et tout à l'heure, on aura Joana Cunha Leal, c'est la directrice de l'Institut de l'Histoire de l'Art de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Et c'est elle, d'ailleurs, qui va parler justement de tout ce qu'il y a dans ce numéro 2021-1. Mais je voudrais quand même avoir davantage d'explications, bien que ce que je vais lire, tout est dit. Il s'agit de la note d'intention que vous avez présentée avec Monsieur Léglise au conseil scientifique de l'Institut, qui a conduit à vous confier la revue en novembre 2020. Je cite, il s'agit de dégager d'histoire au pluriel de l'art national parfois réductrice tout en offrant la possibilité de mettre en valeur certaines façons de faire de l'histoire de l'art et par là certaines traditions historiographiques attachées à des aires géographiques ou culturelles données sans pour autant s'y restreindre. C'est tout un programme, c'est toute une vision du monde et de l'art, non?
Absolument. C'est l'idée que bien sûr, l'art est ancré comme nous autres et donc comme les artistes qui sont les producteurs, tandis que nous sommes davantage peut-être les consommateurs des œuvres d'art, les arts, les artistes et nous autres, nous sommes ancrés dans des contextes évidemment nationaux. Néanmoins, et c'est une chose qui se développe depuis toujours, les hommes bougent, les idées bougent, les formes bougent, et nous voulions prendre notre part avec cette revue de ce grand mouvement des formes, des idées, et sortir de ces frontières qu'on a parfois tendance à ramener peut-être un peu trop au centre de la conversation, et je ne voudrais pas aller là dans le champ politique, mais sortir de ces frontières et parler de communautés de création et de mise à disposition de l'art et de l'histoire de l'art. Et effectivement, prendre la mesure d'une histoire mondialisée, ça n'est pas aller nécessairement vers une histoire de l'art qui serait globalisée et unificatrice. Ce serait pire que de se donner des frontières extrêmement larges, mais de considérer que tout est un à l'intérieur. Au contraire, avec cette ambition de partenariat nouveau, nous voulons continuer à labourer le même sillon avec des formes renouvelées qui permettent en fait de faire ce que Perspective cherche à faire, et qu'elle sait peut-être de mieux, cette revue, c'est-à-dire de regarder à l'aune de la construction d'une histoire de l'art, des histoires de l'art, la manière dont on peut continuer à faire de l'histoire de l'art, c'est-à-dire en fait regarder dans le rétroviseur pour aller droit devant nous, si vous permettez cette métaphore.
Alors, et en même temps, bon, vous êtes chercheuse et vos recherches portent sur l'articulation entre art dit majeur et mineur, notamment autour de la question du décoratif et de l'ornement dans la période contemporaine. Quand on parle d'art majeur ou mineur, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça?
Et effectivement, on peut se demander d'ailleurs si ça veut dire quelque chose. Et je vous remercie pour cette question sagace. Il y a une habitude que nous partageons peut-être tous, qui est de sérier. Je crois que les hommes organisent les choses autour d'eux, la pensée parmi elles, pour comprendre où ils se situent et pour se donner des points de repère. Et c'est ainsi que l'histoire de l'art a, même tout simplement la production artistique, a suivi un certain nombre de hiérarchies avec des arts qu'on a pu dire majeurs au sommet d'une hiérarchie, la peinture, la sculpture, l'architecture, c'est-à-dire ce qu'on a, les arts du dessin. Et puis, quand l'art s'est fait plus utile, pour le dire simplement, on a pu appeler les productions qui ont dérivé les productions d'art mineures. Et moi, ce qui m'intéresse effectivement dans mon travail d'historienne de l'art, c'est de regarder la manière dont les deux s'articulent et de regarder la manière dont des productions artistiques peuvent emprunter à tous les domaines, ceux du mineur, ceux du majeur, aller vers des formes que l'on pourrait considérer comme les plus nobles, mais aussi s'incarner dans notre quotidien et dans des usages tout à fait simples. Et c'est ainsi, pour prendre l'exemple de la décoration, où j'ai pu, dans le passé, et c'est d'ailleurs un livre que je sors là, il y a quelques jours, m'intéresser à la manière dont les peintres impressionnistes, les Manet, Monet, Renoir et autres Caillebotte, Cézanne, Morisot, Degas, se sont intéressés, eux que l'on considère comme des peintres, des grands peintres, des artistes du majeur, à des productions beaucoup plus simples. Ils ont commencé à peindre sur ciment, sur céramique, pour faire des jardinières, bref, à rentrer dans le domaine de l'objet et à s'intéresser à la manière dont leur composition artistique pouvait être imposée sur différents types de supports. Et c'est ça véritablement qui m'intéresse, comprendre ce lien et suivre les artistes dans ce genre d'exploration qui ne sont pas nécessairement au centre de toutes les recherches, ni en histoire de l'art, ni dans le monde muséal.
Alors, au sein de l'Institut national de l'histoire de l'art, je pense que vous vous occupez, vous avez aussi des fonctions à ce qui concerne le mur. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu?
je peux tenter, c'est une recherche qui se met en place. Justement, suite à cette interrogation ciblée sur l'intérêt des impressionnistes pour la décoration, le décoratif, je me suis rendu compte que une chose extraordinaire qui se déroule au XIXe siècle, c'est que ce siècle de l'industrialisation, ce siècle d'une extraordinaire inventivité technique, et le siècle où la peinture perd un peu de sa superbe. Vous voyez, ces grands tableaux que l'on peignait pour les rois, les empereurs et pour l'aristocratie, pour bientôt la très haute bourgeoisie, ces peintures, en fait, étaient concurrencées par toutes sortes de techniques qui permettaient de les mettre sous des formes plus ou moins nobles, dirons-nous, à disposition de tous. Et c'est ainsi que une tension se met en œuvre entre le tableau, l'œuvre picturale et l'image. Et l'image, comme le disait Foucault, elle vole. Et son envol au XIXe siècle est extraordinairement fascinant. On va commencer à la poser sur des assiettes. Aujourd'hui, on a des mugs, n'est-ce pas, avec des tableaux de Monet. Elle va, l'image, être largement reproduite par la gravure. Elle va prendre son indépendance. Et justement, cette indépendance bouscule les hiérarchies. Et du tableau bien installé sur le mur jusqu'à l'image qui vole et qui n'a plus exactement besoin de son support pour vivre son autonomie, il y a un mouvement que je regarde en m'intéressant donc au mur, mais au mur compris comme, de manière assez métaphorique, comme un support de l'image qui peu à peu se transforme et se dissout durant ce long 19e siècle dont je vous parlais.
Oui, c'est tout un programme. Identité, fonction et polysémie. Non, c'est un petit peu ça, je crois. Madame Kiziel, je vous remercie. Donc, j'appelle. Et d'ailleurs, vous enseignez aussi à l'école du Louvre, je crois.
Oui, j'ai le bonheur. J'ai le bonheur. C'est un grand plaisir de transmettre.
Et à l'Université de Paris 4. Madame Kiziel, merci. Donc, j'appelle cette co-rédactrice en chef de la revue Perspective, accompagnée de Monsieur L'Église. Merci de votre travail et dans quelques instants, et là on va parler portugais, ce qu'on va voir justement avec nous, Joana Cunha Leal, membre du comité de rédaction de ces numéros, le numéro auquel elle a participé d'une façon très 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 importante. Merci Madame Kiziel.
Merci à vous et merci à Joana qui a été vraiment formidable pour ce numéro.
Et on vous écoute d'ailleurs. Joana Cunha Leal.
Merci, bonjour. Bon dia.
Joana Cunha Leal, muito obrigado por estar connosco aqui em direto. Ora, precisamente faz parte do comitê da redação da revista e, aparentemente, e segundo o diretor da publicação, teve um trabalho essencial na feitura deste número da revista Perspectiva, porque, entretanto, os responsáveis da redação tinham mudado, de maneira que foi, de uma certa maneira, a Joana Cunha Leal e outros que permitiram que esta revista fosse uma realidade.
Bom, eu é que agradeço o convite e as palavras amáveis do Henrique de Jacé. Na verdade, foi um gosto muito grande participar neste projeto e poder dar algum contributo, mas a parte essencial do trabalho, bem entendido, é da responsabilidade dos sucessivos editores da revista no IENASA. Portanto, eu terei agido como, enfim, uma ajuda suplementar para manter este projeto e para levá-lo por diante, não é? Com muito gosto o fiz, não é? Desde a preparação da chamada dos artigos, do que nós, portanto, lançada para a realização da revista, até, enfim, à sua finalização e mais especificamente ao debate em que eu tive o gosto de organizar e avançar, não é? Mas bom.
Joana Cunha Leal, eu ia lembrar que é diretora do Departamento de História e de Arte da Faculdade de Ciências
do Instituto de História e Arte, exatamente.
Sim, mas está ligada à Universidade de Nova Lisboa, suponho.
À Universidade Nova de Lisboa, não. Exatamente.
Ora, sim?
Diga.
Não, falando do conteúdo da revista, porque, bom, precisamente este número, bom, segundo a perspectiva da própria revista, não é? Cite, este número é consagrado às transferências culturais entre Portugal e os espaços lusófonos, Angola, Brasil, Macau, Moçambique, nomeadamente. Portanto, há um cruzar de olhares, um cruzar de experiências, um cruzar de análise. O que é exatamente?
Bom, é um número que se propôs olhar para a produção artística realmente de Portugal e dos países lusófonos, mas que tinha desde logo um grande desafio que ultrapassar, que era o facto de ter havido um número precedente muito importante da mesma revista sobre o Brasil. E, portanto, isso foi bastante discutido, não é? Como chegar aos países lusófonos, sendo que o Brasil tinha já tido um lugar preponderante. Portanto, olhando justamente para o universo dos países africanos mais vasto, que procurámos, através da chamada de artigos, incorporar, não é? Portanto, a chamada de artigos. E esses artigos constituem o miolo da revista, não é? A parte dos essays resulta precisamente de uma chamada de artigos que foi o mais alargada possível e que reuniu contribuições que depois foram revistas e escolhidas pelo Conselho Científico que suporta a revista. Portanto, a revista que resulta desta chamada inclui, então, ensaios muito, muito diversificados, muitos dos quais olham efetivamente para as relações transatlânticas que Portugal manteve, quer no período colonial, não é? Quer no período da guerra, depois da guerra colonial, com os países africanos. Há um importante artigo da Rita Maia Gomes que observa particularmente a exposição de artistas moçambicanos na África do Sul, no Museu de Pretória, já em plena guerra colonial, não é? Mas também artigos sobre a fotografia pós-colonial, não é? Como é que esses impactos do fim da guerra colonial e, portanto, da independência dos países africanos na produção de imagens fotográficas E também um artigo muito curioso que chegou com um contributo de um investigador brasileiro, mas que está radicado nos Estados Unidos, numa universidade em Dallas, que olha para a arquitetura africana de final do século XIX e do século XX, da primeira metade do século XX, e como essa arquitetura, alguns exemplares arquitetónicos mantêm uma ligação a um léxico, a uma linguagem arquitetónica europeizante, por assim dizer, apropriando os traços de uma arquitetura europeizante, e como isso advém da sobrevivência de, bom, desde logo da colonização, mas mais do que isso, do tráfico de escravos, uhum, e dos negócios que se faziam com os países da costa do Benin. Portanto, este olhar para a arquitetura produzida abrindo na realidade para problemas muito mais vastos e muito mais marcantes, digamos assim, das culturas lusofalantes e das relações transatlânticas e coloniais e do drama do tráfico de escravos. Portanto, tudo isso são artigos muito, muito, muito ricos, que abrem as portas para uma visão e uma compreensão verdadeiramente atenta às circulações, às transferências culturais, mais do que às questões identitárias enfim, à ideia de nacionalidades propriamente ditas. Portanto, isso foi uma preocupação na construção desta revista, foi mantermos esse olhar sobre as transferências e as circulações e a complexidade destas relações históricas, não é? E marcantes e definidoras das culturas dos países, desde logo lusofalantes, não é? Dos que falam português.
Aliás, relativamente ao sétimo debate, as leis portuguesas, património, memória e identidade, cinema, crítica, artes visuais, estudo à volta do José Ernesto de Sousa, 1921-1998, um debate que foi levado a cabo, coordenado por Raquel Schiffer, que vamos ter dentro de alguns instantes para falar de uma exposição que, de uma certa forma, é a continuidade de um certo número de temas que estão aqui nesta revista. Há também uma entrevista com Álvaro Siza.
Exatamente. Digamos que nós nesta revista conseguimos, e o mérito dos colegas do Ianachá, ter duas figuras muito marcantes em campos distintos da cultura portuguesa. O Álvaro Siza é um gigante, evidentemente, na arquitetura, um gigante que nos vem falar, é entrevistado pela Dominique Massabert. É uma entrevista que passa por muitas etapas da obra do Álvaro Siza e que nos leva a viajar desde Berlim, nos anos 80, com o célebre Bonjour Tristesse, do edifício do Siza, até ao Brasil, com o edifício da Fundação Ibéria Camargo, nos anos 90, até já nos anos 2000, à Igreja do Marco de Canaveses. Enfim, e muitas outras obras, na verdade, do Álvaro Siza, onde justamente resgatei uma frase que dá continuidade a este tom geral da revista, não é? Que nos diz que il n'y a pas d'identité que ne soit porosa, não é? Portanto, essa ideia de uma identidade porosa e em diálogo e em permanente diálogo com, enfim, tudo mais, não é? E depois temos também a contribuição da Maria Filomena Molda, que é também, enfim, outra figura de referência na cultura portuguesa contemporânea, que abre com um texto que nos diz como Portugal é esse rosto que fixa o Ocidente, não é? Mas que é, na verdade, um texto que, enfim, acentua esta ideia de um pé na terra e o olho no mar da nossa condição geográfica através da obra de quatro artistas, duas artistas mulheres, a Helena Almeida e a Luísa Correia Pereira, ambas falecidas já, mas marcante. A Helena Almeida, enfim, ela própria é um gigante da cultura portuguesa do século XX. E depois dois artistas homens, o Pedro Costa no cinema e o Gustavo Sumta, já um artista plástico mais de uma geração mais nova em relação à Helena Almeida.
Mais contemporâneo.
Mais contemporâneo, exatamente.
Joana Cunha Leal, muito obrigado. De maneira que aqui fica a ideia, perspectiva, número 2021-1. Bom, acrescentar uma coisa, à frente, mas enfim, obrigadíssimo.
E provavelmente... Eu é que agradeço a oportunidade e peço desculpa de falar português, mas enfim.
Estamos aqui para isso também, não há problema nenhum.
Não faça muito mal.
Joana Cunhal, e damos encontro então no mês de junho em Fontainebleau, na medida em que vai fazer parte do comitê do Festival de História e da Arte. Teremos a ocasião
todos
de falar consigo daqui a
tempo. Ao festival.
Muito obrigado,
muito
Joana Cunhal.
Muito obrigada, tudo bom, breve, obrigadíssimo, então. Adeus.
Dentro de alguns instantes vamos falar precisamente da exposição que vai estar presente no Instituto Nacional de l'Histoire de l'Art, Resistance Visuelle Généralisée. Isto é a propósito da luta precisamente anticolonial nas antigas colónias portuguesas, e tínhamos prometido música que tem a ver com o tema. Agora vamos ouvir é um Rui Mingas, um tema que data de 1964. Rui Mingas não foi só um atleta, longe disso, fez muito mais coisas do que isso, e o tema desta canção é Monongambé. Tem a sua história na medida em que isto foi escrito em 73, 74, ainda que o disco tenha sido em 74. Isto tem a ver, evidentemente, com a condição daquilo que eram os povos colonizados. Aqui fica Rui Mingas.
Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. Café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Estrada longa, a tipoia ou o cacho de dendém, quem capina e empaga recebe desdém. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angulares. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angulares, porradas a refilares. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores. Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter
palavras que cantam, os regatos de alegre serpentear, e o vento forte do sertão responderão. Monangambê, Monangambê, deixa-me ao menos subir.
O Imingas Mondangambé serve-nos de introdução precisamente sobre o tema que vamos abordar agora, ou seja, a exposição Résistance Visuelle Généralisée, livre de photographie et mouvement de libération Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap Vert, l'Institut National de l'Histoire de l'Art, institut qui se trouve de rue Vivienne, justement à Paris 2, justement. Et temos connosco via telefone as duas comissárias da exposição, Raquel Schiffer, bom dia, boa tarde.
Bom dia, boa tarde.
E agora vamos até um bocadinho mais longe, Catarina Boieiro, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Ora, eu faço a ligação porque há instantes estive com a redatora-chefe da revista Perspectivas. Aliás, nesta revista há um debate que foi moderado pela Raquel Schiffer, acho eu.
Sim.
Cinema, crítica... Sim.
Sim, pensava que era uma pergunta.
Sim, uma pergunta, concretamente.
Sim, portanto, tive o prazer de moderar um debate em torno da figura e da obra do Ernesto Sousa, um dos artistas portugueses mais importantes do século XX.
Uhum. Ora, sim.
E nesse debate houve várias intervenções de parte de diferentes figuras, tanto realizadores como investigadores. Uma historiadora de arte que debateram a vida e a obra do Ernesto Sousa.
Ora, esta exposição vai estar pendente ao público a partir do dia 24 de novembro, a inauguração trocando do dia 23. Concretamente, o que é que vamos encontrar na exposição, Catarina Boieiro?
A exposição parte de uma ideia de reunir um conjunto de livros de fotografia que foram feitos no contexto dos movimentos de libertação e que, na verdade, nunca tinham sido assim estudados como um conjunto e exibidos numa exposição. E, a partir daí, dessa vontade, nós passamos dois anos, desde 2019, ano em que recebemos uma bolsa de apoio à investigação para este projeto. Temos estado a reunir mais informações sobre esses livros e, para além disso, também a nossa ideia era também contextualizá-los entre um conjunto de outras obras, também filmes, mas também outros documentos e objetos visuais e gráficos que foram feitos no mesmo contexto. E então a exposição reúne uma pequena amostra deste corpus de objetos. Vamos poder ver e descobrir estes livros de fotografia, ou pelo menos uma parte deles, mas também vamos poder ver filmes, documentos de arquivos que reunimos aqui, para dar uma pequena ideia deste conjunto de objetos, que é bastante rico, na verdade.
E a esse propósito, será que... Bom, eu agora deixo-me a Raquel Schiffer. Fez uma tese sobre as representações fílmicas da Guerra de Libertação, 1964-1974, e da Revolução Moçambicana, 1975-1977. Portanto, é um tema que domina perfeitamente, a Raquel Schiffer.
Sim, é um tema que tive a oportunidade de estudar na minha tese, que defendi em 2015, na Sorbonne Nouvelle. Na altura havia muito pouco estudo sobre essa temática, havia o estudo pioneiro da Rose Gray, que é uma investigadora britânica, mas de resto havia muito pouca bibliografia disponível, e então o que tentei na tese foi constituir uma história e ao mesmo tempo definir os fundamentos estéticos do cinema revolucionário moçambicano desde 1966, que é o ano de fundação do Departamento de Cinema da Frelimo, até 1987, que é o ano que poderíamos... definir como de início do declínio da produção cinematográfica em Moçambique e, ao mesmo tempo, também um ano de importante viragem política na sequência da morte do Samora Machel em 1986.
Agora, finalmente, a vossa exposição, bom, eu vou para além da exposição, depois gostaria que vocês falassem das obras que vamos encontrar e das pessoas que participaram, porque vão ser pessoas que participaram igualmente nesta exposição. É que durante muito tempo, bom, a França fez igual, pôs a poeira debaixo do tapete, é como quem diz, guerra colonial, a França foi a guerra da Argélia, era assunto tabu, parece que não se queria falar nisso. De maneira que, será que esta exposição vai ajudar a sair desse silêncio e obrigar as pessoas a refletir e a discutir? Não sei quem é que me quer responder. Então, Catarina ou Raquel?
Eu penso que sim. Por um lado, a exposição vai permitir que as guerras de libertação dos países africanos de língua portuguesa, um assunto pouco conhecido em França, ganhem alguma visibilidade no contexto francês. E, por outro lado, pensando na imbricação que o Arthur referiu entre as diferentes guerras de libertação, nomeadamente a guerra de libertação argelina, penso que também poderá contribuir para incentivar o debate em torno do colonialismo e dos processos de descolonização das colónias francesas, que, como sabemos, é ainda um assunto pouco estudado e debatido em França.
Sim, é mesmo tabu. Há filmes que foram realizados que a censura impediu-os de sair durante décadas.
Aliás,
recentemente ainda entrevistámos Isabela Figueiredo com o livro diário Crónicas de Coloniais, onde ela fala precisamente da juventude dela em Moçambique e por aí fora. Ora, vocês na apresentação desta exposição avançam que houve há uma sétima de obras que estão presentes, que podiam detalhar se, concretamente o que vamos encontrar? A Raquel ou a Catarina, não sei.
Sim, para além dos objetos que já mencionamos, que são históricos, também vemos uma obra da mesma altura, de uma artista, de uma cineasta, Sara Maldoror, o filme Monangambé, primeiro filme de ficção que foi feito sobre a luta de libertação em Angola. Para além disso, temos também algumas obras contemporâneas, para além dos documentos históricos e dos livros de fotografia dos anos 60, 70 e alguns até início dos anos 80. E a ideia é também que estas obras contemporâneas permitam estimular assim, uma reflexão crítica sobre estes objetos históricos. E então temos uma peça, uma instalação de Filipa César e Sónia das Borges, especificamente dedicada à questão do projeto pedagógico do PAIGC na Guiné-Bissau, sobretudo. E é uma instalação que inclui um filme, com também imagens de arquivos, e a Sónia Vaz Borges é uma pessoa que tem, uma investigadora que se tem dedicado muito a esta questão da educação, no contexto da luta do PAIGC, a questão da educação militante, das escolas-piloto, etc. E pronto, esta instalação reúne o filme e fotografias também de arquivos e outros documentos. Para além disso, temos também uma obra do artista português Daniel Barroca, uma pequena instalação de fotográfica, sobre a qual, se calhar, vamos deixar assim também não podemos revelar tudo ainda, não é? Para dar vontade às pessoas de vir à exposição. E incluímos também mais dois filmes, um da Natalie, grande artista portuguesa, também muito próxima do Ernesto de Sousa, já que estávamos a falar dele no início da conversa, o filme Revolução, da Natalie, que também estimula uma reflexão, não é, sobre a questão da imagem e da política. E para além disso, um filme mais recente, o El Quete Bungué, que a ideia é mostrar também que todas estas questões hoje em dia são pertinentes, porque, na verdade, o racismo em Portugal ainda é um problema estrutural, e isto para nós é muito importante, criar esta ligação, esta reflexão sobre o presente, e não só olhar para estes livros de fotografia, etc., só como uma coisa de um passado distante, mas ver como é que eles podem ser importantes e pertinentes ainda hoje em dia.
Sim, tanto mais que um certo de coisas. Ainda tivemos aquilo que se passou precisamente em Portugal com um ex-combatente que assassinou um ator de origem africana. português, de origem africana, mas enfim, o racismo não morreu, infelizmente. Ora, hoje, isto é um parênteses que vou abrir agora. Andei, encontrei uma imagem hoje do filme No Pincha, um filme que foi rodado antes mesmo de 74, na Guiné-Bissau. Algo extraordinário. Andei à procura do... Só encontrei uma imagem para ver o filme agora, vai ser difícil. Ora, acabei que esta exposição também realiza-se no quadro de um programa, não sei quem é que me pode falar sobre isso, um programa precisamente que é dirigido por Zeya Rahmani.
Sim, portanto, a propósito do No Pincha, é um filme realmente muito interessante. Passou no cinema do Réu há uns 4 ou 5 anos, sem precisar a data exata, realizado pelo Tobias Engel, que é um realizador que durante alguns anos esteve engajado politicamente nas lutas de libertação dos países africanos de língua portuguesa e em particular da Guiné-Bissau. É um filme muito interessante, tanto do ponto de vista histórico, enquanto documento histórico, mas também do ponto de vista estético. E em relação à inserção do programa no domínio arte, História da Arte Mundializada, dirigido pela investigadora Zaya Rahmani, é um dos domínios do INHA, que é uma instituição que comporta diferentes domínios de investigação, e no quadro desse domínio, dirigido pela Zaya Rahmani, procura-se, abordar a história a partir de uma perspectiva não eurocêntrica, isto é, a partir de uma perspectiva mundializada. Uma perspectiva mundializada que contempla, fluxos e as circulações entre os países não europeus e os países europeus. E nos últimos anos, a Zaya Rahmani tem vindo a desenvolver um trabalho importantíssimo, valiosíssimo, sobre as publicações desde o século XIX até aos anos 70, 80, dos movimentos de libertação ou dos movimentos independentistas a nível mundial, e foi por essa razão que, quando tivemos a oportunidade de lhe apresentar o nosso projeto, ela mostrou desde logo um grande interesse e nos apoiou na realização desta exposição no Instituto Nacional de História da Arte.
Mas é importante, acho eu, vocês falaram também de um apoio, um financiamento. Esse financiamento veio da parte da Fundação Carlos do Gulbenkian, foi? Da Raquel?
Inicialmente tivemos uma bolsa para a primeira parte que envolveu, que realmente foi necessário muita pesquisa para conseguirmos reunir tantas informações e tantos objetos, e esta pesquisa foi feita graças a uma bolsa de uma nova instituição que se chama Institut pour la Photographie, em Lille, que é já um centro dedicado à fotografia, arquivos, exposições, etc. E tivemos esta bolsa anual em 2019, e agora, mais recentemente, para a produção da exposição, tivemos o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, que nos permitiu realizar, enfim, esta exposição.
Partiu aqui de França um bom aspecto positivo. Agora, a propósito dessa exposição, aparentemente está proximamente, vamos ver a exposição em Lisboa, mas será maior e mais aprofundado? O que é que se passa? Catarina?
Sim, a nossa intenção também, como é um projeto tão complexo, que coloca questões históricas e bastante complexas, sobre também a questão da imagem. E a nossa intenção é esta primeira exposição seja também um pretexto para experimentar coisas, aprofundar o diálogo com mais pessoas, com mais especialistas da área, tanto da área da imagem como da história política. E a ideia é que o projeto possa ainda evoluir, porque realmente há tantos conteúdos que é impossível mostrar tudo agora nesta sala onde vai estar a exposição do Instituto Nacional de História da Arte, em Paris. E a nossa intenção é, se for possível, e vai ser, desenvolver o projeto e poder mostrar mais coisas e reunir mais informação e criar um diálogo também mais intenso com outros colegas que trabalham nesta área.
um bocadinho mais, vocês precisavam de um espaço do museu. Enfim, agora eu lembro a exposição Resistance Visuelle Généralisée, Livre de Photographie, Mouvement Libération, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert, l'Institut National de l'Histoire de l'Art, qui se trouve aux deux de rue de Vivienne, em Paris 2, exatamente, para o público a partir do dia 24 de novembro até o dia 15 de janeiro, e há que referir que o acesso é livre e gratuito de segunda ao sábado, entre as 14 e as 19. Para o dia 23, penso eu, é necessário, independentemente do passo sanitário, evidentemente, toda a gente sabe isso, é por convite para o dia 23, para o vernissage ou a inauguração.
É por convite, mas nós teremos todo o gosto em acolher todos aqueles que queiram estar presentes na inauguração.
Então, o convite está feito e vamos a isso. Obrigado, Raquel Schiffer e Catarina Boyer, de estarem em contato connosco e, evidentemente, vamos acompanhar a par e passo este trabalho e estar com vocês igualmente e, no sentido de dar continuidade um bocadinho a esta exposição, a última faixa musical que vamos passar aí por volta das 13 horas e 55 minutos, é Velha Chica, de Valdemar Bastos, que teve a infeliz ideia de nos deixar em 2020. É uma canção que foi escrita antes do 25 de Abril, uma história de uma senhora idosa, a Velha Chica, que esconde as razões da miséria em Angola, as jovens que estão na escola, isto diz tudo. Obrigado às duas e até muito breve, então.
Muito obrigada a todos, até breve.
Chegamos ao termo da passagem nível deste domingo, dia 21 de outubro. Obrigado ao Manuel Alexandre e relembro aos nossos ouvintes que a emissão é redifundida na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Para terminar, vamos guardar o título da canção Velha Chica, Valdemar Bastos. Há que ver que esta canção foi escrita precisamente antes do 25 de Abril e que fala de uma senhora idosa, precisamente, que tenta esconder a miséria. Jovens miúdos nas escolas. Era a situação em Angola. Bem-ajam e até para a semana, espero.
Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos a vovó Chica, qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento? Xê menino, não fala política, não fala política, não fala política. Xê menino, não fala política, não fala política. Não fala política. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Mas a velha Chica, embrulhada pensamentos. sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Entro, che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. E o tempo passou, e a velha chica, sou mais velha, ficou. Ela somente fez uma cubata, com teto de zinco, com teto de zinco. E o tempo passou, e a velha chica, sou mais velha, ficou. Ela somente fez uma cubata com teto de zinco.